Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » C'est sévère, hein ? Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver, non pas les pécheurs c'est sûr, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous y reviendrons tout à l'heure. Romains chapitre 6, verset 5. Nous réexpliquerons dans les prochaines réunions la teneur de ces paroles. Romains chapitre 6, verset 5. Vous savez que dans Romains 6, 7 et 8, Paul explique toute son expérience d'une vie charnelle à une vie spirituelle. C'est pour ça que ce sont des chapitres qui valent la peine d'être médités. Romains chapitre 6, verset 5. On va lire à partir du verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ... » Alors, M. Olé, dans les études doctrinales, nous a expliqué que ce baptême-là, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est ce baptême de régénération à la conversion. Vous comprenez ? Le baptême d'eau ne signifie pas forcément que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, il n'y a pas eu repentance et conversion, bien entendu. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est clair dans votre cœur ? Pas trop, hein ? Galates chapitre 5, on l'expliquera. On l'expliquera d'une manière très pratique. C'est pour ça que je prends du temps. Il faut que nous nous familiarisons avec ces textes pour que quand je vous les expliquerai, nous les comprenions mieux. Galates chapitre 5, verset... Alors, on va lire à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Donc vous voyez que dans les Corinthiens, dans les Romains, dans les Galates, dans les Colossiens, on n'a pas lu Colossiens, mais vous voyez que cet enseignement revient pour que nous comprenions que le chrétien doit avoir une vie spirituelle. Je vous donne un élément qui est venu pendant que je préparais cette prédication. 99 fois sur 100, quand les gens me donnent une requête de prière, c'est toujours « Monsieur, go prier pour que je réussisse mes examens, prier pour que je trouve un appartement, prier pour que je trouve un bon job, prier pour ci, prier pour... » Jamais quelqu'un m'a demandé « Monsieur, go prier pour que je fasse des progrès avec Dieu. » Jamais, je ne me souviens pas. Vous voyez, ça vous montre ce pourquoi les gens veulent s'approcher de Dieu, bien sûr. Attention, je ne généralise pas, mais c'est quand même révélateur. Et je crois que la première des choses lorsqu'un chrétien passe par la nouvelle naissance devrait demander, c'est le perfectionnement. Bien sûr que si nous les pasteurs, nous n'y sommes pas rentrés, et si nous n'avons pas compris le sujet comme ça a été certainement le cas, même pour moi, comment amener les gens à la perfectionnement si nous-mêmes nous ne sommes pas entrés suffisamment dans cette vie de l'esprit. Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des enseignants pour le perfectionnement des saints. Pour ceux qui découvrent le sujet, c'est dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 16. Dieu veut que nous nous perfectionnons. Dieu veut vous donner un bel appartement, j'en conviens. Dieu veut vous donner un bon travail. Dieu veut que vous réussissiez dans vos études. Dieu veut vous donner un conjoint qui soit pieux, etc., etc. Ce sont des choses que Dieu, de toute façon, vous donnera si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais nous devrions quand même, compte tenu de ce qui est en train de se passer, de l'apostasie qui est en train de pénétrer dans les églises, nous devrions, devant Dieu, nous, les chrétiens, si vous n'êtes pas convertis, ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est le salut de votre âme pour que vous n'alliez pas en enfer. Mais si vous êtes convertis, votre préoccupation première devrait être, Seigneur, je veux marcher de progrès en progrès. Jésus a dit, on y viendra, ce sera la conclusion de ces études, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fruit, c'est pas pour la branche, c'est pas pour l'arbre, le fruit, c'est pour les autres. Hier matin, je mangeais une mandarine délicieuse, délicieuse. Et j'étais rafraîchi par ce fruit. Et je me suis dit, ouais, c'est moi qui l'ai eu, c'est pas l'arbre. C'est pas pour l'arbre le fruit. Nous ne portons pas des fruits pour nous. Nous portons des fruits pour rafraîchir les autres. Nous portons des fruits pour faire du bien aux autres. Vous êtes d'accord? Une église, elle doit porter du fruit. Si nous ne portons pas du véritable fruit, nous ne glorifions pas Dieu. Ça sera le sujet d'une autre méditation, mais c'est quand même pour que vous compreniez bien l'importance de ce sujet. Tous les chrétiens, tous, devraient être soucieux de chercher à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Est-ce que ce n'est pas l'objectif d'être rendu conforme à l'image de Christ? Peut-être que ça, vous n'y pensez même pas. Il y a peut-être 4 ans que vous êtes converti, mais vous n'avez jamais prié, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Peut-être que vous l'avez chanté, mais ça vous a jamais, jamais, jamais traversé l'esprit d'une manière concrète. Un chrétien, il doit chercher à être de plus en plus conforme à l'image du Seigneur. C'est écrit à l'image. Ça ne veut pas dire qu'on va être des clones. Vous savez, moi j'entends tout, j'entends tout. Tout ce qu'on peut entendre, j'entends. Cela ne veut pas dire qu'on va perdre notre personnalité et qu'on va tous se ressembler. Comme vous savez, à l'armée, je ne sais pas si vous avez fait l'armée, moi ça m'a choqué qu'on ait tous rasés, tous le même uniforme, tous les mêmes rangers. Moi ça m'avait frustré, ça, d'être tous pareils. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il y a de l'union, mais il n'y a pas, comment on appelle, il y a de la diversité, mais il n'y a pas là. Qu'on appelle le mot, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave, l'uniformité. Hein, on n'est pas fait pour mettre des uniformes. Ce n'est pas parce que nous ressemblerons de plus en plus au Seigneur que nous perdrons notre personnalité. Vous ne croyez pas que c'est le contraire? Mais c'est clair, notre caractère, oui, lui, il va subir des dommages, tant mieux. Mais notre personnalité, elle, ne pourra que s'épanouir. Nous serons tous différents. Personne ne se ressemblera. Nous serons différents, mais pour le bonheur des autres. Pour le bien de l'Église, pour le bien des perdus, notre caractère, notre amour, notre paix, notre joie, tout cela sera à l'image de Dieu. Et c'est exactement ce que nous devons chercher, à ce que ce ne soit pas notre amour naturel qui se déverse sur les autres, mais que ce soit l'amour du Seigneur. Un exemple, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. D'accord? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont distincts l'un de l'autre? Ben, un peu. Ils sont totalement distincts l'un de l'autre. Et pourtant, il n'y a pas plus unis qu'eux. Vous êtes d'accord avec moi? À tel point qu'il n'y a qu'un Dieu. Vous vous rendez compte? Il ne peut pas y avoir plus unis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, ils sont totalement distincts tous les trois. C'est exactement ce que Dieu veut, que nous soyons surtout utiles. Ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, ce n'est pas devenir le clone de Jésus, c'est manifester sa vie au travers de nous. C'est exactement ça. C'est pas quelque chose d'ennuyeux. Je ne crois pas qu'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit doit s'ennuyer beaucoup. Vous croyez? Hein? C'est quelqu'un qui est utile. Il est utile aux autres. Il est utile dans sa famille. Il est utile à l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne va pas être ennuyeux, en tous les cas, pour les chrétiens spirituels. Il va être ennuyeux pour les chrétiens charnels. Ça, oui,
il faut le dire.
Parce qu'il y a quand même un décalage entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Et un chrétien qui est charnel trouvera certainement très ennuyeux un chrétien spirituel. Pour le chrétien charnel, de toute façon, toutes ces choses que je suis en train de partager, c'est de la théologie. C'est pas vrai? Qu'est-ce que vous pensez, vous qui écoutez peut-être un sermon sur la vie de l'esprit pour la première fois ou pour la deux ou troisième fois? Peut-être que déjà ce sermon commence à vous ennuyer, que vous êtes en train déjà de regarder la montre, voyez? Parce que c'est ni plus ni moins que de la doctrine. Pour le chrétien spirituel, ce sujet, vous le savez, est important. Vous le savez, c'est quelque chose de sérieux. C'est le désir le plus vif qu'il y ait dans le cœur de Dieu pour votre vie. Parce que c'est par ce moyen que Dieu manifestera sa présence et sa puissance au travers de nos vies. Vous comprenez combien ce sujet est sérieux, voire même solennel, afin que nous le comprenions, que nous le réalisions et que nous puissions y entrer. Parce que c'est bien de le comprendre, mais ces études doivent avoir un seul but, que nous entrions dans la vie de l'esprit, que nous y entrons vraiment. Alors quelques pensées encore pour tout ce qui est charnel. C'est bien d'en parler un petit peu. Parce que ce n'est que par l'esprit qu'on peut comprendre les choses de Dieu. D'accord avec moi? Quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui n'est pas converti, il ne comprend pas les choses. Il comprend la religion. On va lui expliquer que dans telle église catholique, on fait comme ci. Dans l'église protestante, dans l'église évangélique, il y a telle ou telle différence. Ça, il va le comprendre. Avec l'intelligence, on peut comprendre beaucoup de choses. Et tant mieux. Mais ce n'est pas avec l'intelligence qu'on fait l'œuvre de Dieu. Une dame me disait dernièrement, je ne comprends pas. On a un pasteur, mais il est gentil, mais il est gentil. Il est gentil, mais l'église se vide, je ne comprends pas, pourtant il n'y a pas plus gentil que lui. J'ai dit, mais l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas avec la gentillesse. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens spirituels. Non, normalement, c'est bien qu'on soit... Quand quelqu'un est spirituel, il peut être gentil. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le monde qui sont très, très, très gentils? Ils ne sont pas pour autant spirituels. L'œuvre de Dieu se fait avec des gens spirituels. C'est bien des qualités humaines. C'est extraordinaire, et un chrétien doit en avoir, c'est évident. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec les œuvres de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne peut pas concevoir les choses de l'esprit. L'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et c'est pour cela que peut-être je n'ai pas suffisamment abordé ce sujet, parce que je sais que beaucoup ne comprendront pas, beaucoup ne réaliseront pas tout ce que l'on va partager au travers de ces études. Un chrétien qui continue à marcher selon la chair, c'est-à-dire, je répète, avec son ancienne nature qui n'est pas régénérée, il ne peut pas avancer spirituellement. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous les voyez, comme ils m'ont dit, moi ça fait 5 ans que je suis converti, j'ai fait aucun progrès. Vous l'avez jamais entendu ça? Ça fait 10 ans que je viens dans votre église, moi j'ai honte, hein, j'ai honte, mais bon, c'est pas quand même ma faute. Que ma faute. Combien de chrétiens m'ont dit, oui, ça fait 10 ans que je suis dans votre église, monsieur, mais j'ai fait aucun progrès avec Dieu. Bon, c'est bien ça, pour mon humilité, c'est bien. Bon, quoique c'est pas ma faute, parce qu'il est quand même dit, veillez à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez, je comprends quelle est ma part de responsabilité, mais je veux l'assumer. Pour le jour où je passerai devant Dieu, mais quand même, vous avez également votre responsabilité d'écouter sérieusement. Un chrétien, si vous dites, ben moi j'ai pas fait des progrès depuis 10 ans, c'est que vous marchez selon la chair, faites-moi confiance, s'il vous plaît, ce que je vous dis est biblique. Un chrétien charnel, il est tout le temps en train de se faire des idées fausses au sujet des choses du Seigneur. Bien sûr, quand on lui parle de la croix, par rapport au pardon des péchés, il est content le chrétien charnel. Vous êtes d'accord avec moi? Le chrétien charnel, il est content de l'œuvre de la croix. Parce que quand même, il sait que s'il est sauvé, c'est grâce à l'œuvre du calvaire. Mais, quand on lui parle de la croix pour la crucifixion de la chair, là, il n'est pas content. Je le répète, le chrétien charnel est content quand on lui parle de la croix pour le pardon de ses péchés. Mais il commence à titiller quand on lui commence à parler de la mort au péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout la même chose. Que Jésus soit mort à la croix pour le pardon de nos péchés, alléluia. Mais que Jésus soit mort à la croix pour la crucifixion de notre moi, ah, aïe, aïe, aïe. Voyez, hein, c'est plus le même mot qu'on utilise. On va lire deux textes pour comprendre ces choses encore. Romains chapitre 6, verset 11, on va le relire. C'est un verset, comment le comprenez-vous ce verset? On y reviendra, je voudrais bien vous l'expliquer. Mais comment comprenez-vous ce verset? Romains 6, verset 11. C'est dans ce même contexte, Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous, vous y êtes? C'est important que vous le notiez. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Regardez-vous comme mort au péché. Béni soit Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais ce que je veux vous enseigner, c'est cette dimension. Il n'y a que la croix, on le verra peut-être pas aujourd'hui, mais il n'y a que la croix qui peut nous arriver, qui peut nous amener à cette véritable victoire. Croyez-le-moi. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. Un verset que je vais m'appliquer à vous expliquer dans les semaines à venir. Parce qu'un chrétien charnel, il ne comprend pas ça. Si vous lisez ce verset pour la première fois, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est normal. Je me souviens quand je l'ai lu la première fois et j'étais converti. J'ai pas compris. 2 Corinthiens 4, verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Vous voyez ? On va comprendre qu'il y a une autre mort spirituelle qui doit agir en nous afin que nous puissions transmettre la vie du Seigneur. La croix ne doit pas être qu'une expérience formidable passée. La croix, elle doit être présente dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il l'a dit Jésus? Que si on voulait le suivre, il fallait se charger de la croix tous les jours. Tous les jours. Un chrétien charnel ne comprend pas ces choses. Il ne comprend pas, il dit peut-être c'est mes rhumatismes. Hein. On l'entend des fois. Oh, la croix que je me porte. Ah, mais qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai des rhumatismes. Vous voyez? Vous ne riez pas. Si on croit que c'est ça la souffrance, on rejoint ce que l'Église catholique nous a enseigné, qu'on est sauvé par la souffrance. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. La croix, ce n'est pas ça. Ça, c'est des épreuves. Vous n'avez pas choisi les rhumatismes. Vous n'avez pas dit, tiens, je vais avoir des rhumatismes pour souffrir pour Jésus. Ça ne tient pas debout. La croix, c'est on s'en charge volontairement. Qu'il se charge lui-même de la croix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de vous la mettre dessus. C'est nous qui choisissons. Un chrétien charnel ne comprendra jamais l'expression « J'ai été crucifié avec lui ». Pour un chrétien charnel, ça c'est que tristesse, que fardeau, que complication. Ah moi j'ai assez d'épreuves, c'est pas la peine de m'en mettre une de plus. Hein. Ne me parlez pas de ça alors que c'est une vie de délivrance. C'est une vie de délivrance. Il ne peut pas comprendre un chrétien charnel. Et n'essayez pas de l'expliquer. La chair ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Pour le chrétien charnel, la croix c'est que du passé. Ça s'est passé il y a 2000 ans, il a porté mes fardeaux, et moi aujourd'hui, je veux jouir de toutes les bénédictions du calvaire, parce qu'il y a la paix, il n'y en a pas des bénédictions qui découlent de la croix? Est-ce qu'il y en a des bénédictions? Mais comment le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ce n'est pas une bénédiction ça? Hein? Alors, le chrétien charnel, lui, veut les bénédictions. Oh Seigneur, comble-moi, Dieu bénis-moi, soulage-moi, console-moi. Est-ce que ce n'est pas des bénédictions de la croix? Est-ce que Dieu les accorde? Oui, même au chrétien charnel, le Seigneur peut les accorder, vous inquiétez pas. Dieu n'est pas comme cela, comme nous pourrions l'être. Non, Dieu bénit. Mais entrer dans cette vie de revêtement du nouvel homme, se revêtir du nouvel homme, se dépouiller du vieil homme, mais pourquoi faire? Moi, des fois, j'entends de ces choses, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, ça? C'est pour vous dire le degré de piété qui s'est installé dans nos églises. Le degré de piété qui s'est installé dans le cœur des ministères. Je sais très bien qu'après ces études, j'entendrai et on me dira, « Monsieur Gault, vous avez méprisé les ministères en parlant de la sorte. » Je ne pense pas mépriser les ministères en parlant de choses aussi importantes et aussi graves. Je ne crois pas. Ça, je l'attends, c'est pas important ça. Mais je ne méprise pas les ministères en parlant de ces choses. Si nous avons blessé le cœur du Seigneur en n'enseignant pas la vie de l'Esprit, que Dieu nous pardonne. Et il le fera. Mais ce n'est pas une raison pour rester dans cette légèreté. Nous voulons voir la gloire de Dieu. et nous y entrerons que par la croix. Pour les chrétiens, je parle. Bien sûr que les pécheurs entrent dans le royaume par la croix, mais les chrétiens connaissent la puissance de Dieu par la croix, par ce second aspect de la croix, bien entendu. Un chrétien charnel, il ne comprend pas. D'ailleurs, même quand il lit la Bible, souvent, il la lit d'une manière intellectuelle. Parce que les paroles de Dieu, quand même, elles sont esprit et vie. Oui ou non? Jésus l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est pour ça que nous devons prier, même des fois, avant de lire la Bible. Seigneur, ouvre mon cœur. Je vais relire le psaume 23, Seigneur. Je l'ai lu 200 fois. Mais ouvre mon cœur, tu vas peut-être m'apprendre quelque chose. Ouvre mon cœur. La chair, elle essaye. Je ne dis pas que les chrétiens charnels ne sont pas sérieux. Les chrétiens charnels, ils essayent avec leur force, avec leur intelligence. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas et ils ne peuvent pas y arriver. Comment un chrétien charnel peut-il comprendre ce que j'ai lu cette semaine dans un livre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, une jeune femme juive, chrétienne, s'est dénoncée aux Allemands pour être internée dans des camps de concentration? Parce que Dieu le lui a dit. Elle a témoigné à je ne sais combien de femmes juives qui ont été gazées et qui se sont converties avant de mourir. Comment comprendre quelque chose de pareil? Moi, quand j'ai lu ça, j'étais bouleversé. Elle s'est dénoncée à la Gestapo pour aller dans les camps de concentration. Elle en est ressortie, je crois que Dieu l'a permis, pour qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle a parlé de Jésus à je ne sais combien de femmes qui ont été torturées, qui ont été tapées, toujours tant nues. Vous vous rendez compte, cette femme, elle a accepté tout ça. Elle aurait pu se cacher pour parler de Jésus-Christ. La chair ne va pas comprendre ça. Ce qu'on va dire, mais cette femme, elle est folle, cette femme. Mais elle est folle. N'importe quel chrétien charnel aurait conseillé à Moïse, mais Moïse ne part pas. Attends de devenir pharaon, et quand tu seras pharaon, je peux te dire que tu auras les coups des franges pour délivrer le peuple d'Égypte. N'importe quel pasteur aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens auraient dit à Moïse, mais je te mets de grâce. Reste à la... C'est pas vrai, monsieur Olé? Mais c'est clair. Tu seras pharaon, tu auras tout ce qu'il faut. La chair, elle ne veut pas mourir. La chair, elle va tout trouver. Tout, surtout, mais ne pas mourir. Tout. Même si c'est très religieux, c'est pas grave. Mais surtout, ne pas mourir. Cet amour qui pardonne. Il y a des chrétiens, j'en ai... Ah non, hein, c'est une... Je me souviens d'une femme, au début que j'étais ici, une jeune femme. On avait été invité chez elle à manger, on avait parlé. Pendant le repas, elle dit, ah, moi je suis une chrétienne. Hein. Je ne suis pas crétin, je suis chrétien. Mais moi, pardonner, ça va un moment. Hein. Et en rentrant, j'ai dit à la voiture, à ma femme, j'ai dit, tu vois, cette femme, elle va rétrograder. 3 mois après, elle avait rétrogradé. Parce que la chair ne comprend pas ces choses. Alors, on entre dans un sujet, là, sérieux par rapport au pardon. La chair, vous rendez compte, elle ne comprend pas l'importance de tout pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Jésus crucifié, avec ce qu'il a vécu la nuit passée, la première parole qui dit, pardonne-leur, crucifié. Nous, des fois, un chrétien ne nous a peut-être pas dit bonjour, non, on est passé à côté, on n'a pas pensé, oh, ça va pas, ça. Mes frères et sœurs, la chair ne peut pas comprendre ces choses. Elle ne peut pas. C'est écrit. Elle ne peut pas. Et je ne vous en voudrais pas, et on n'en voudrait à personne. Un chrétien charnel, il ne peut pas comprendre ces choses. Pour un chrétien charnel, dès qu'on parle de consécration, de sanctification, tout ça, c'est une vie perdue. La prophétie nous l'a rappelé tout à l'heure. C'est une vie de privation, d'autoflagellation. C'est une vie de misère, de sacrifice. Elle est perdue, ma vie. Donner ma vie à Dieu. Mais vous ne vous rendez pas compte, je vais perdre ma vie. Mais c'est normal qu'un chrétien parle comme ça. Une entière sanctification, mais vous rigolez. Une entière consécration, mais c'est une blague. Mais c'est normal. La chair ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, on est dans des temps difficiles. Et on va voir maintenant, qu'est-ce que c'est qui peut se manifester au travers de la chair? Parce que la chair, elle ne juge pas selon la vérité. La chair, elle juge selon les émotions, selon les apparences. Hier, nous avons vu un jeune avec mon épouse, un jeune dont je faisais allusion tout à l'heure quand on a présenté le petit Raphaël. Nous avons vu un jeune qui a vécu 10 ans de ténèbres. Il est tombé dans tout ce que l'on peut tomber lorsqu'on abandonne Dieu. Il ne s'était pas baptisé, il ne s'était pas converti, mais fait, il connaissait Dieu, il aimait le Seigneur. Et il a écouté, il est tombé sur le site de l'église, il a écouté une prédication il y a un mois sur la crainte de l'Éternel. Et ce garçon s'est rendu compte que sa vie n'était pas en règle. Et il a été à l'église, et il a été voir une chrétienne, ou un chrétien, je n'ai pas voulu savoir qui c'était. Et il a dit à cette chrétienne, écoutez, voilà, moi je suis en train je veux revenir à Dieu, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu, je suis dans le péché, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Vous savez ce qu'elle lui a répondu, la chrétienne? Mais attends, t'as le temps. Découvre l'amour de Jésus, tu verras. Découvre d'abord l'amour de Jésus, puis après tu verras. Il me dit, écoutez, monsieur Go, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dis, mais c'est tout à votre honneur, parce que je crois que l'amour de Jésus, vous l'avez commencé à le découvrir. Et que maintenant, vous, c'est tout à votre honneur de vouloir mettre votre vie en règle. Ah, elle me dit, j'étais dans la confusion parce qu'on me poussait à ne pas mettre ma vie en règle. Dans une assemblée de chez nous. La chair ne comprend pas ces choses. C'est pour ça, ne vous heurtez pas avec des gens comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand vous dites à un chrétien charnel, quand un chrétien charnel vous dit, mais si, je peux me marier avec un inconverti. Mais si tu veux faire une bêtise, fais-la. Vous voyez? Et on est là-dedans, et ça rentre partout dans les églises. Et moi je vous dis, si ce n'est pas encore fait, que dans les mois ou les années à venir, on va baptiser les gens qui sont paxés, on va baptiser les gens qui sont dans la fornication, parce qu'ils s'aiment sous le regard de Dieu, et il ne faut pas juger, etc. Le chrétien charnel, il ne recherche pas la communion avec Dieu. Le chrétien charnel, il cherche la bénédiction. Ah, ça c'est important, c'est clair, mais c'est vrai que c'est important en plus. Mais là aussi, sa relation avec Dieu, elle est superficielle. Il ne s'approche pas pour connaître Dieu. Il ne s'approche pas pour avoir une révélation de Dieu. Je vous dis, c'est tout le temps ça. Bénis mes examens, bénis mes partiels, bénis surtout ceci. Et que j'ai un bon salaire, Seigneur. Bon. C'est la vie de chrétien, je bac un peu. Mais ça se résume à ça pour certains. La chair, elle peut se montrer très religieuse. Très religieuse. Je le dis, la seule chose que la chair ne peut pas faire, c'est mourir. Et elle va tout faire pour essayer de faire l'œuvre de Dieu à sa façon. Alors, mais il y a de l'espoir pour les chrétiens charnels, parce que je crois qu'on l'a été, parfois on l'est, moi je l'ai été, parfois je le suis de temps en temps, ne vous inquiétez pas. J'en ai honte. Mais je crois qu'il y a de l'espoir pour tous les chrétiens. Alléluia. Même un chrétien charnel, si vous vous reconnaissez dans cette description, ne vous affolez pas, il y a de l'espoir, Dieu veut vous aider, Dieu veut nous éclairer, Dieu veut nous sortir de cet état de vie charnel. Vous le croyez que Dieu veut nous aider? Vous croyez qu'on parle de ces choses, c'est parce que Dieu va nous faire un procès? Quand Dieu dit que Dieu a un procès avec son peuple, lisez la suite, c'est pour le bénir. Dieu jamais ne nous accrochera pour nous descendre, il va nous interpeller pour nous bénir. Et si on entretient ces choses, si on s'entretient de ces choses, c'est qu'il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des chrétiens charnels qui sont engagés dans toutes sortes d'activités et ils le font quand même pour plaire au Seigneur. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Il y a des chrétiens, on a dit, mais tu sers le Seigneur, tu seras heureux. On n'est pas heureux parce qu'on sert Dieu. Il y a beaucoup de joie à servir Dieu. On est heureux parce qu'on est en paix. Il y a des gens qui servent Dieu, ils ne sont pas heureux. Ils rétrogradent, ils sont malheureux, j'ai fait ça, j'ai fait l'école du dimanche, ça a été une corvée. Oui. Pourtant, ils l'ont fait pour le Seigneur, mais ils l'ont fait avec leur propre force. Alors, ça devient une corvée. Et je sais ce que c'est. Je peux vous dire que je sais ce que c'est que de tenir une église et de prêcher avec ses propres forces et d'être épuisé. Ah, je peux vous dire que je peux témoigner. Ah, laissez-moi vous dire, je peux témoigner. Je sais ce que c'est travailler avec la chair. J'ai une longue expérience à ce sujet. Croyez-moi. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut que nous nous appliquions et que nous disons, Seigneur, tu vas m'éclairer. Alors, on va voir ce matin. Un petit quart d'heure, puisqu'il nous reste 20 minutes, on va voir vraiment tout ce que les croyants sont capables de faire pour marcher selon la chair. Alors, il y a beaucoup de solutions qui sont à la mode, en plus. Premièrement, la grande mode actuellement. Alors, attention, si vous ne comprenez pas tout, c'est que je ne prendrai pas le temps de tout expliquer. Mais c'est vrai ce que je vais vous dire. La grande mode aujourd'hui, c'est le recours à la psychologie. Ouais. De plus en plus, j'en attends ça. Tu as un problème, va voir un psychologue. De chrétiens, bien sûr, si possible. Alors écoutez, je crois que par définition, la psychologie, ça s'adresse à ce qui est psychique, d'accord? À l'âme. Et il y a de très bonnes choses dans la psychologie, ça j'en suis convaincu, que ça peut provoquer des déblocages, des compréhensions, mais la psychologie, comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est psychique dans l'homme, c'est-à-dire de l'âme. On en revient aux sentiments, à l'intellect, aux émotions, à la volonté, etc. C'est pas mauvais tout ça, mais ça ne règle pas les problèmes spirituels. Ça ne peut pas régler les problèmes spirituels. On l'a lu, que la sagesse de ce monde ne peut pas. C'est de la folie. C'est de la folie pour Dieu. Vous l'avez lu avec moi. Je crois qu'il y a des bénédictions. Je crois que des problèmes sont expliqués, que des problèmes psychiques, parce que le mot âme, c'est le mot psyché qui a donné le mot psychique ou psychisme. Voyez ? Alors, Si on s'occupe au niveau de l'âme, ça peut régler des problèmes. Mais on n'est que dans le domaine de l'âme. On est dans le domaine de la chair. La psychologie, elle s'occupe des choses charnelles. La psychologie ne peut pas régler les problèmes spirituels. Vous croyez que la psychologie va régler la victoire sur le péché ? Moi, je veux que vous me l'expliquiez. Elle ne peut pas mettre à mort la chair. Vous me suivez ? La chair, elle ne peut pas être mise à mort par la psychologie. La chair, elle ne peut être mise à mort que par la croix. Que par la croix, la chair est trop puissante pour vaincre, pour être vaincue par la psychologie, croyez-moi. N'oublions pas la loi du péché et de la mort qui agit dans la chair. Oui, cette loi ne peut pas être annulée par des lois humaines. Il n'y a que la loi de l'esprit qui peut nous délivrer de la loi du péché et de la mort. On l'a lu dimanche dernier, Romains chapitre 8, verset 2. Oui, la prédication de la croix, c'est une puissance pour sauver les croyants. Et je crois que cette puissance est capable de régler tous les problèmes spirituels. Tous, vous entendez, les problèmes spirituels. Dans une église, c'est pour ça que Paul renonce à tout, comme on l'a entendu. Il renonce à tout, pourquoi ? Parce qu'il sait que la croix peut régler et corriger tout. Alors je répète, je ne parle pas de la prédication de la croix que nous saisissons par la foi pour le pardon de nos péchés. Je parle de la prédication de la croix qui va crucifier notre vieille nature. Cette croix qui va nous bénir, parce qu'on ne peut pas par les propres forces. Vous n'avez pas essayé par vos propres forces ? Hein ? On n'est pas malheureux ? Hein ? On le voit. Regardez une lecture dans Galates 5. Galates 5, verset 13. Ce sont des choses sérieuses. La chair, vous savez, la psychologie, c'est bien. C'est bien la psychologie, mais croyez-moi, ça ne réglera pas la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Là, on entre dans un autre domaine. Vous y êtes ? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors, ce texte nous parle d'un danger dans lequel sont tombés beaucoup de chrétiens. Nous avons été libérés. Oui ou non, à la croix, nous avons été libérés. D'accord. Par le sacrifice de Jésus-Christ, quand nous sommes allés à la croix, que nous avons ouvert notre cœur, le sang de Jésus nous a libérés. Donc, nous pouvons dire ce qui est écrit, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Oui, on est libre. Mais vous avez vu, ne prenez pas cette liberté pour vivre selon la chair. C'est bien de dire qu'on a été délivré du péché et de la loi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais il faut apprendre à être libéré de la chair. Est-ce que vous me suivez ? Hein ? Vous comprenez ? Sinon, si on n'est pas délivré aussi de la chair, on va vivre selon la chair. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus, voilà, mais on est libre, on a été délivré, il faut s'éclater dans l'église. Les jeunes, vous avez jamais entendu ça ? Vous avez jamais entendu ça dans les églises ? Hein ? Il faut s'éclater. Faisons la fête. Dernièrement, un chrétien m'a dit, il est en train, faisons la fête pour Jésus. Vous voyez, il faut s'éclater. Et je peux vous dire que les pasteurs de mon rang sont des empêcheurs de faire la fête pour ces gens-là. Croyez-moi, faites du bruit pour Jésus. Mon fils, il est venu d'un rassemblement et tout le long de la soirée, il a entendu que ça. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour Jésus. J'avais regardé une fois un truc là. Vous savez, n'oubliez pas les paroles. Vous connaissez ? Ouais. Hein ? Faites du bruit, tout le temps là, le gars. Faites du bruit pour lui. Voilà où il a cherché. C'est ça. On a pris cette liberté que nous avons, parce que nous sommes devenus libres. Nous avons utilisé cette liberté pour vivre selon la chair. Et c'est une fausse libération. Les gens ne sont pas libres, croyez-moi. C'est la porte ouverte à tous les moyens modernes, à toute cette musique du monde qui rentre dans les églises. Est-ce qu'il peut y avoir de la louange charnelle ? Mais oui, est-ce qu'il peut y avoir de l'adoration charnelle ? Mais bien sûr. Et ça, c'est la chair. Elle prend le dessus, elle va utiliser ce verset. Moi, j'appelle ça une fausse libération. Oui, nous sommes délivrés du péché. Oui, nous sommes délivrés de l'enfer. Oui, nous sommes délivrés de la loi. De la loi. Mais nous devons aussi être délivrés de la chair. Parce que si nous ne sommes pas délivrés de la chair, nous vivrons selon la chair. Et tout ça, nous basculons dans la sentimentalité. Je vous donne un autre témoignage. Je vous donne un autre témoignage. Il y a une sœur qui a longtemps été ici, une sœur sérieuse, pieuse, qui est restée ici. Puis quand elle a pris la retraite, elle est partie dans une ville de France pour s'occuper d'une grand-mère. Est-ce que c'est une bonne chose ? Voilà. Elle consacre sa vie pour s'occuper d'une femme. à la retraite. C'est pas beau? Et puis, elle est allée dans une église sensiblement différente de la nôtre, vous le comprendrez. Et elle a eu un jour l'idée, je ne sais pas si c'était une bonne idée, elle a eu l'idée de dire au pasteur, vous savez, pourquoi on ne chanterait pas des cantiques sur les ailes de la foi? Pourquoi on ne chanterait pas des vieux cantiques qui nous parlent de l'œuvre de Christ, tout ça? Vous savez, moi je viens d'une église où on chante sur les ailes de la foi, etc., etc. Et vous savez ce qu'il lui a répondu, le pasteur? Je prends la responsabilité de ce que je vais dire. Il a dit, une église comme Sainte-Agne, elle est vouée à disparaître s'il continue à chanter des vieux cantiques. Voilà la chair. C'est sérieux, ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est là-dedans. C'est fausse libération. On utilise le fait qu'on a été délivré de la loi pour vivre selon la chair. Et c'est une véritable catastrophe, parce que les églises, en vivant selon la chair, resteront charnelles, superficielles, émotionnelles. Et que Dieu nous garde de tomber là-dedans. Alors, je suis pour les nouveaux cantiques, d'ailleurs. On chante des nouveaux cantiques. Le problème, ce n'est pas qu'on ait des vieux cantiques ou des nouveaux cantiques. Il faut avoir des cantiques spirituels. Faites tout. Voilà. Les meneurs de chant, si un cantique n'est pas spirituel, n'ayez pas peur, vous ne profanerez pas le cantique en rayant un cantique qui n'est pas spirituel. Voilà. Cherchez à voir si les paroles sont spirituelles et si la musique, quand même, correspond également. La musique, ce n'est pas pour le corps. La musique, ce n'est pas pour le corps, croyez-moi. Dans le monde, elle est pour le corps. Un autre piège, le légalisme. Le légalisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent légalistes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont un profond désir de marcher avec le Seigneur en toute chose. Moi, je l'ai été. Je l'ai été. Je pourrais vous donner des exemples, on n'a pas le temps. Le chrétien qui veut plaire au Seigneur peut tomber dans ce piège et il va s'imposer dès qu'il est en contact avec un commandement, où il est fort ce commandement. Bon, je vais le mettre en pratique. Je vais le mettre en pratique, je vais le faire de tout mon cœur. Mais comme il va le faire d'une manière humaine et d'une manière charnelle, il ne va pas y arriver. Vous comprenez? Parce que sa chair n'est pas crucifiée. Et ce n'est pas un commandement qui va nous aider à crucifier la chair, croyez-moi. Le légalisme, il est sérieux. C'est sérieux dans le sens où par ses propres forces, il essaie d'obéir. Mais il n'y arrive pas. Vous le savez? Vous avez déjà... Qui a déjà été légaliste? Moi, je l'étais. Je peux vous le dire. On n'y arrive pas. Vous le savez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pêche en cachette. Moi, j'ai connu un pasteur qui était légaliste. Il a été pasteur dans une église. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Les chrétiens étaient d'un légalisme. À l'église, ils étaient, mais vraiment d'une rigueur. Et dans cette même église, qui avait qu'une centaine de membres, il y a eu en 5 ans 40 cas d'adultère. Et ce pasteur m'expliquer, et aujourd'hui ça me revient à l'esprit parce que je comprends ce que suis-je en train de vous dire. En plus, le problème du légaliste, c'est que non seulement il s'impose, mais il impose aux autres. Il impose aux autres. Et ça, c'est une autre paire de manches. Le légalisme, c'est la meilleure école de l'hypocrisie. Parce que vous essayez de le vivre, mais comme vous n'y arrivez pas, alors à l'église, vous vous tenez à carreau, mais à la maison, vous ne pouvez pas. Est-ce que j'exagère? Et le légalisme ne peut pas crucifier la chair. Alors c'est vrai que les légalistes, ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils essayent avec leurs propres efforts. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Surtout quand on commence à l'imposer aux autres. Mes frères et sœurs, le légalisme ne peut pas crucifier la chair. On va le voir, il n'y a que la croix qui peut le faire. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, veillons à cela. Si on est touché par un commandement, demandons la grâce de Dieu pour lui obéir. Mais vous le savez, le légalisme ne crucifiera jamais la chair. Un autre piège. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien avant de me juger. C'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, est-ce qu'ils peuvent crucifier la chair? Non. Ce sont les deux vertus les plus importantes dans le royaume de Dieu. Parce que je crois que par le jeûne et la prière, on s'approche vraiment du Seigneur. Et que le Seigneur peut nous parler, se révéler, nous faire comprendre des choses extraordinaires. On peut être sensibilisé à la vie de l'Esprit par le jeûne et la prière. Mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit? De cet homme qui était dans le temple, qui jeûnait et qui priait. Et je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. Et moi je jeûne, et moi je prie. Est-ce que ce n'était pas un comportement charnel ça? Bien sûr, quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, dit « Ne priez pas comme les pharisiens, ne priez pas comme les hypocrites », ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront spirituels ou exaucés. Quand vous jeûnez, ne jeûnez pas comme les hypocrites ou comme les pharisiens. Il explique que le jeûne et la prière peuvent être utilisés comme moyen de crucifier la chair. Non, le jeûne et la prière vous approcheront du Seigneur. Et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit jeûnera et priera. Vous ne le croyez pas ? Un chrétien qui est spirituel, rempli du Saint-Esprit, sera poussé à jeûner, sera poussé à prier. Mais que jamais ne nous imaginions que parce que nous allons jeûner et parce que nous allons prier, nous allons crucifier la chair. Je vous le dis, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que j'ai tellement de progrès à faire, vous avez dû le voir. Mais laissez-moi vous dire qu'une fois ici, c'était il y a 3 ou 4 ans, j'ai jeûné 21 jours. Vous croyez que ça a crucifié la chair ? J'ai perdu 12 kilos, c'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça fait. J'ai compris certaines choses, je me suis régalé. Je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait pour Dieu. Je pensais que j'aurais certaines victoires. Tu parles, il n'y a pas une victoire. Il y a eu des compréhensions, je me sentais mieux dans mon corps, ça c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que le jeûne et la prière ne crucifieront pas la chair. Attention de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut plus prier, et il ne faut plus jeûner, parce que quand même ce sont deux activités extraordinaires qui nous permettent, même si on est encore charnel, de prendre considération de beaucoup de choses. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quatrième piège, les activités, les œuvres religieuses, les œuvres sociales. Vous savez, un chrétien, il veut servir Dieu, oui ou non ? Un chrétien, il doit servir Dieu, il sait très bien qu'il ne peut pas faire autrement, parce que de toute façon, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais combien de chrétiens se sont lancés dans des activités sociales, religieuses, de tout leur cœur ? Parce qu'il y avait un besoin, parce qu'on a présenté un projet, et parce qu'on a présenté des activités. Alors ils se sont dit, voilà, il faut que je le fasse. Mais ils étaient tellement préoccupés par ces œuvres qu'ils sont passés à côté de la vie de l'esprit. Et il y a des églises aujourd'hui qui sont impliquées dans tout un tas d'activités. Dernièrement, dans une rencontre, il y a un pasteur qui a donné le nombre de quantités d'activités qu'il y avait dans l'église. Je ne vous dirai pas le nombre, ça frise les 60. Mais pour vous dire, et moi j'ai peur qu'on met les gens dans les activités, on met les gens dans ceci, on met les gens dans cela, pour satisfaire les projets d'un pasteur qui, lui, veut voir l'œuvre de Dieu grandir. Alors comme ça, on va faire ci, on va faire une friperie, on va faire une école, on va faire ci, on va faire là. Voilà, le pasteur, lui, il est content, parce que les chrétiens, ils font des œuvres, mais ils ne sont pas enseignés, ces gens, à marcher selon la vie de l'esprit, et le résultat, il est catastrophique. Il est catastrophique. Si les programmes, les activités, les œuvres, toutes les œuvres, nous empêchent d'apprendre à marcher par l'esprit, ça ne servira à rien. Par contre, dans une église, et là je m'adresse à tous, parce que plusieurs parmi vous, vous n'êtes pas sérieux avec ça. Certains parmi vous, vous ne faites rien. Et c'est un danger. Alors je ne vous dis pas, faites quelque chose de bien. Mais je vous dis, tenez-vous devant Dieu. Dieu vous mettra à cœur de faire certaines choses. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne fasse rien pour le Seigneur. Le verdict, il est là, tu l'adoreras et tu le serviras. Un chrétien, il doit avoir à cœur quelque chose. Ça va être ci, ça va être là, mais ces choses-là, je le répète, ne doivent pas remplacer la vie de l'esprit. L'église de Laodicée est tombée dans ce piège. Elle croyait être vivante et elle était morte, aveugle, misérable et nue. Et elle était à fond dans les activités. Il aurait fallu que les activités soient le découlement. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous en supplie, tenez-vous devant Dieu. Dieu vous mettra à cœur un désir. Ça sera peut-être d'aller visiter quelques grands-mères. Ça sera peut-être il y a besoin de personnes à l'école du dimanche. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui se rendent pas. Parce que quand on vit par la chair, tout devient pénible. On est fatigué. Si un enfant est difficile, moi ce gosse, je ne le veux pas dans la classe d'école du dimanche. On l'a déjà entendu, ça. Ça, c'est pas spirituel. C'est vrai qu'on a besoin de discipline et qu'on doit aider un animateur quand même. Bon, ça, c'est autre chose, la discipline. Mais mes frères et sœurs, chacun d'entre vous, ça, je vous le dis quand même, c'est mon devoir. Chacun d'entre vous dit, mais quelle est ma place ? Tu m'as placé à Sainte-Agne ? Vous avez choisi de venir dans cette assemblée ? C'est un choix que vous avez fait ? Eh bien, moi, je vous dis, en tant que votre berger, trouvez votre place dans l'église, c'est peut-être la courage, c'est quelque chose que vous avez à cœur, c'est là, vous ne pouvez pas faire autrement. Mes frères et sœurs, il a plu à Dieu de sauver les hommes, les croyants, par la folie de de la prédication. La puissance de Dieu, elle se manifeste par la prédication de la croix. Et je veux vous amener petit à petit à cette compréhension de la croix qui est capable de crucifier la chair. Que nous puissions bientôt tous dire, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Considérez-vous comme mort au péché. Quand vous savez que toutes ces choses, vous les avez déjà reçues. Est-ce que vous les savez? Que cette vie de l'Esprit, elle est en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'appartenez pas au Seigneur. Même si vous avez une bonne religion, même si vous êtes pentecôtiste, croyez-moi, vous n'appartenez pas au Seigneur pour autant. Mais mes frères et sœurs, vous les chrétiens, qui vous êtes levés certainement, qui avez pris le baptême, qui avez renoncé à beaucoup de choses, cette nouvelle vie, elle est dans votre esprit. Vous pouvez y puiser. Jésus-Christ a dépouillé les principautés, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle à la croix. La victoire, elle est en vous déjà. Elle y est. Jésus-Christ est-il en vous? Donc la victoire, elle est en vous. Et il faut comprendre ces choses. Je résume l'œuvre de la croix. Je la résume pour conclure. Je l'ai marqué. Christ est mort pour moi. Oui, vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. D'accord? Bien bon. Christ est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés. Il a expié sur la croix pour moi. D'accord? Son sang m'a lavé. M'a pleinement racheté de la puissance du diable. D'accord? Bon. Deuxièmement, puisque Jésus est mort pour moi, moi aussi, je suis mort avec lui. On a lu les textes. Hein? Vous êtes mort. Puis après, il ajoute, faites mourir. Parce que la vieille nature, elle est costaud. Laissez-moi vous le dire. Mon ancienne vie a été clouée à la croix. Vous me suivez? Dieu nous a placés avec lui, en Christ, au calvaire. Et comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, moi aussi, je suis ressuscité avec lui. Personne n'a levé la main, ça tombe bien. Et le chrétien qui est né de nouveau, il possède tout cela. C'est en lui. C'est pour ça que c'est tout le temps écrit par l'Esprit, par Jésus, en Jésus. Et tout ça, le légalisme, les œuvres, la psychologie, et tout ce qu'il y a de cohérent et de bon dans ces choses, ne peuvent pas crucifier la chair. Il n'y a que la prédication de la croix de Jésus. Priez pour que le Seigneur m'inspire pour les prochaines réunions, pour que nous comprenions bien que ce que fait Jésus, ce qu'il y a en nous. On peut, dernièrement dans une situation, mais ce verset m'est venu à l'esprit, « Considérez-vous comme mort au péché ». Mais si vous saviez la bénédiction que ça a été pour bien réagir dans une situation où j'aurais pu peut-être réagir charnellement. Oui, nous sommes morts, mais comme la chair elle est bien vivante, il faut travailler que par la prédication de la croix, nous la crucifions. Et on va y arriver. Il y en a qui veulent y arriver ? On va y arriver, mes frères et sœurs. C'est du travail. Je suis avec vous. Vous ne croyez pas, j'ai peut-être une petite longueur d'avance parce que ce sujet me préoccupe dans l'enseignement, mais au niveau pratique, on est tous ensemble et on va y aller et on va voir la gloire de Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. On va voir la gloire de Dieu. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît. Recueillons-nous. Ce sujet est tellement sérieux. Rappelez-vous cette prophétie qui a été donnée tout à l'heure. Oui, il y a quelqu'un qui pense que tout cela, c'est une perte, c'est une corvée. Non, moi je crois que la vie de l'esprit, c'est la plus grande liberté qui existe. Que la vie de l'esprit, c'est la délivrance, la puissance de Dieu. Que c'est la conversion des pécheurs, que c'est la sanctification de l'Église, que c'est la guérison des malades. Tout ça, ce sont des conséquences. Alors mes frères et sœurs, méditez ces choses. Nous allons les reprendre, les réécouter, les entendre. Tout ça est enregistré, ça sera sur Internet, ça sera gratuit bien entendu. Mais mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si nous entrons dans cette vie spirituelle, le Seigneur, il va nous bénir. Et ça sera des fleuves d'eau vive. Ça sortira tout seul de nous. Il n'y aura pas d'effort à faire. Ça sera le résultat de la vie divine. Le fruit, le fruit. Seigneur Jésus, ta grâce, Seigneur. Nous te demandons pardon pour avoir perdu tant de temps. Parce que moi, j'ai perdu du temps, Seigneur, et tu le sais. Pardonne-moi, Seigneur, pour les années passées à avoir négligé ce sujet qui est vital, qui est la solution à la bénédiction de ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. Nous voulons véritablement travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Nous voulons que lorsque les pécheurs entreront dans ce lieu, ils soient saisis par ton esprit. Nous voulons que les malades soient guéris. Nous voulons voir, oui, des fleuves d'eau vive couler de notre ventre. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Aide-nous à crucifier la chair et ses passions. C'est toi qui le feras par la croix. Seigneur, merci. Merci d'être mort pour nous. D'être mort pour que nous puissions crucifier la chair. Merci d'être ressuscité pour nous. Merci pour la vie de résurrection. Pour la mort qui agit en nous. Et pour la vie qui agit en nous. Oh, éclaire-nous, éclaire-moi. Enseigne-nous. Que cette église soit une maison de prière. Que tous les chrétiens soient délivrés de leur esprit de timidité et de crainte. Que cette vie de l'esprit envahisse tout Toulouse, Seigneur. Et que nous puissions voir ta gloire comme tu l'as voulu. Comme tu l'as préparé. Que tu puisses nous remplacer les années que nous avons perdues. Seigneur, que nous voyons ta gloire. Oui, Seigneur Jésus, c'est ta volonté. Qu'elle soit faite dans cette assemblée. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.